Ouais, ça ressemble à un nid d'oiseau.
Ça, peut-être ça va bien retenir les feuilles, ce petit nid d'oiseau. Oui, ça ressemble à un petit nid d'oiseau, t'as vu? C'est la plante séchée qui est morte, qui avait avant, qui peut fabriquer un petit nid d'oiseau. Et alors, on a commencé par un petit nid d'oiseau, on met un lit de feuilles, ça va être un parfait petit lit pour la plante.
Ma ville en prend de la graine est une réflexion sur le rapport étroit entre l'agriculture et l'histoire de la ville.
Et alors, on a commencé par un petit nid d'oiseau, on met un lit de feuilles, ça va être un parfait petit lit pour la plante.
Malgré l'urbanisation galopante qui a entraîné la disparition de la ceinture verte marseillaise, l'agriculture, sous différentes formes, reprend sa place dans la cité phocéenne, comme vont nous l'expliquer différents spécialistes. Jean-Noël Consalès, en qualité d'agri-urbaniste dans la ville de Marseille, décrit les liens qui ont toujours uni la ville à l'agriculture et évoque les facteurs transformant les zones agricoles en zones urbaines.
Mes recherches se fondent sur l'agriculture.
Un membre de la Confédération paysanne cite la poussée foncière comme accélérateur de ces transformations en région PACA. Pour préserver les banlieues agricoles, une solution serait de mettre en valeur une qualité de vie en milieu urbain sous forme de marchés paysans et de jardins. La demande chez le citoyen, quel que soit son niveau de vie, est d'accéder à des produits alimentaires de qualité. Mais au-delà de cette fonction nutritive qui devrait toucher toutes les couches de la population, convivialité et citoyenneté, vie de quartier, insertion sociale sont des qualités défendues par différents acteurs associatifs qui veulent préserver et promouvoir cet agri-urbanisme.
J'en mets une là ?
Bien sûr. Choisis, mets en plein pour lui faire un petit lit. Tu peux choisir des belles couleurs, toutes celles qui te plaisent. Faut en mettre beaucoup, t'as vu combien ? Vas-y, je te laisse faire, regarde, t'as vu tout ce que j'ai mis, moi, j'en ai mis pas mal. Hein.
Comment on peut aujourd'hui parler d'agriculture dans la ville ? Mes recherches se fondent sur l'agriculture au sein des territoires métropolitains à Marseille, hein, pas que sur Marseille, intra-limite communale, mais aussi dans la périphérie. L'agriculture, la vraie agriculture, celle avec des agriculteurs qui produisent pour vivre de leur activité commerciale, mais aussi les formes de jardins collectifs, jardins familiaux, jardins partagés, jardins d'insertion sur les territoires de l'arc méditerranéen et notamment à Marseille.
Jean-Noël Consalès, agri-urbaniste.
Associé ville et agriculture, c'est pas quelque chose que nous, en tant qu'urbains, on a traditionnellement l'occasion d'entendre. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et mes travaux essaient de montrer que d'aménager la ville avec l'agriculture, de réintroduire de l'agriculture au sein de la ville, ben c'est quand même se référer à une histoire urbaine qui est très longue. Ville et agriculture sont intimement liées dans l'histoire de l'humanité, ou plutôt dans la préhistoire de l'humanité. Les hommes, qui jusque-là étaient des chasseurs-cueilleurs, se sédentarisent. Et ils se sédentarisent pourquoi ? Parce que ils inventent l'agriculture, ils trouvent l'agriculture, ils passent à un mode de gestion de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils gèrent leur rapport à la nature, à leur consommation, à leur nourriture, et ils sont plus dans simplement la dépendance de chasseurs-cueilleurs. Et en faisant cela, ils se sédentarisent et ils posent les bases d'un nouveau mode de vie sédentaire. L'histoire de la ville et de l'agriculture est intimement liée et que depuis le néolithique, les constructions sociales ont fait qu'on a séparé ces deux entités-là. On a créé des modèles de séparation, en tout cas des représentations qui ont fait que un rural, c'est pas la même chose qu'un urbain. En tout cas, dans les esprits occidentaux. Et pourtant, il faut savoir que sur les territoires, la relation de la ville à l'agriculture, à une agriculture de proximité, a été vraiment présente, cette relation, jusque à peu près au milieu du 19e siècle, sous la forme de quelque chose qui était très présent sur le territoire marseillais, la forme de la banlieue agricole.
Oh là 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 là, mais il fait que caler celui-là, c'est pas possible, et avance un peu!
Klaxon demain, on est encore là.
Oh Pépé, tu la bouges ta caisse?
Plus il fait chaud, hein?
Mais non, non. Ah, regarde les travaux là, non, c'est bouché, on peut pas sortir là.
Marre de la ville, j'en ai marre de la ville!
Waouh, on est pas bien là?
Ouais. Ah bon? Qu'est-ce qu'on se fait chier?
si on se réfère donc dans le passé, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, les moyens de communication, les routes sont tortueuses, étroites, difficiles d'être connectées à une autre ville. Les temps de transport sont longs et on ne peut pas faire venir sur les marchés urbains des productions maraîchères, laitières, c'est-à-dire qui se périment vite, produites extrêmement loin des villes. Et toutes les grandes villes étaient entourées de ce qu'on appelait des banlieues agricoles qui servaient essentiellement à la production de denrées fraîches, animales, notamment le lait, et végétales avec du maraîchage. Et Marseille n'a pas échappé à la règle, et c'est au 19e siècle que ce système a atteint son apogée, et y compris à Marseille, par un élément fondamental à Marseille de constitution de cette banlieue agricole, l'arrivée des eaux de la Durance, par un équipement que tes auditeurs doivent bien connaître, le canal de Marseille qu'on voit de partout dans la banlieue marseillaise et qui a apporté au milieu du 19e siècle les eaux de la Durance jusque dans ce territoire marseillais qui jusque-là était un territoire extrêmement sec et qui s'est vu complètement irrigué, et ça a boosté complètement l'agriculture en donnant des paysages fort agréables d'ailleurs. J'en réfère ici par exemple à Sainte-Marthe, qui donne un peu une impression de véritable bocage en milieu marseillais, bien qu'aujourd'hui tout ça soit revu par un plan d'urbanisme assez massif, la ZAC de Sainte-Marthe, mais il reste vraiment une structure agricole très forte, structure de prairie, et on était là au cœur des quartiers laitiers de Marseille. Vraiment un passé agricole et une agriculture qui était autour de la ville jusqu'au 19e siècle. Et il faut savoir que c'était quelque chose d'extrêmement fort, un besoin extrêmement fort, si bien que dans tout le bassin marseillais, les zones de plaine ne suffisaient pas à la consommation de la ville-centre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Dès le 18e siècle, et encore plus au 19e siècle, on est allé gratter sur la colline, et ça a donné d'autres paysages qu'on connaît bien, les territoires de Restanque, de Bancao, comme on dit ici, les terrasses de culture, qui, là, étaient des territoires au sec, c'est-à-dire qui n'était pas irrigué et qui était plutôt spécialisé sur des productions de type olivier, de type amandier, c'est-à-dire de l'arboriculture au sec. Donc ce système de banlieue agricole a vraiment perduré jusqu'au milieu du 19e siècle, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'apogée, mais à partir du 19e siècle décliné. Alors décliné pourquoi? Ben parce que au 19e siècle apparaissent de nouveaux moyens de transport, et notamment le chemin de fer, qui permet de faire venir très rapidement sur les marchés urbains des produits agricoles produits plus loin de la ville-centre. C'est vraiment le début de l'ouverture des villes vers un autre système que le système local. Ce système va décliner de banlieue agricole, mais va quand même perdurer jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est pas une rupture totale, nette et franche. Et si bien que les plus anciennes d'entre nous, nos parents, nos grands-parents, se rappellent encore que dans les années 50-60, même 60-70, on peut dire, dans certains quartiers périphériques de Marseille, il y avait encore de l'agriculture très présente qui structurait complètement le territoire. Force est de constater que réellement, après la Seconde Guerre mondiale, après la phase de reconstruction, on est passé à une urbanisation périphérique intense, d'abord par le phénomène des banlieues, de constitution des collectifs de banlieues, les tours et les bars qu'on connaît, puis après par un autre phénomène qui est un phénomène plus lié au logement individuel, la périurbanisation, qui là sont devenus des arguments contraires à cette banlieue agricole. Au passage, cette banlieue agricole, dans les années 60, ben, elle est passée du statut de banlieue agricole à celui de banlieue résidentielle. Et quand on parle aujourd'hui de banlieue à Marseille ou ailleurs, on parle rarement d'ailleurs de banlieue à Marseille, on préfère le terme de quartier, et ça correspond plus à la réalité territoriale. Quand on parle ailleurs de banlieue, ben on fait référence à ce passé agricole, sauf que tout le monde l'a oublié, que c'était à la base des banlieues agricoles, et aujourd'hui c'est des banlieues résidentielles.
Ah, la pète. Mio diretto, notre métier chiro tu sordur, mais vive la glèvo et le tracteur.
On les appelle les bouseux, les péclos, les pacoulés, les parpagnas.
La danse qui vient leur est entièrement dédicacée. Car collègue réfléchis, qui déclare les guerres, qui cultive la terre, qui fait son profit et qui nous nourrit.
Alors qu'est-ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale? L'urbanisation a besoin d'espace, toujours plus loin des centres-villes, et qui se fait de façon préférentielle sur les espaces non construits, qu'ils soient agricoles. Généralement, c'est plus facilement le cas parce que ce sont des espaces plats, facilement exploitables par l'urbanisation, ou sur des espaces naturels. La population urbaine s'est développée, que le besoin d'espace s'est fait sentir, et il y a eu des croissances périphériques, quelle que soit la ville. Et ce phénomène d'étalement de la ville en périphérie s'est fait sentir de partout. Dans les zones littorales du sud, cette urbanisation, elle s'est faite de façon vraiment démesurée, réellement très très importante. Donc les impacts sur le territoire en termes de consommation foncière, en termes de mutation paysagère, ont été ces conséquences d'autant plus importantes qu'on était au sud avec un phénomène qu'on appelle l'héliotropisme, l'attrait du soleil exactement. La question du foncier en agriculture est fondamentale, mais elle est d'autant plus problématique dans les régions où la poussée foncière est importante, et notre région est une région vraiment où la poussée foncière est très très importante. D'un côté, le processus de consommation foncière est encore très présent comme contexte pour cette agriculture qui serait située à différentes échelles au sein de la ville. C'est une réalité constante que les agriculteurs ont à affronter ou à accompagner, parce qu'il ne faut pas non plus noircir ou blanchir le tableau. C'est-à-dire que bien souvent, un agriculteur maintient son activité en zone, on va dire urbaine, pendant qu'il est en activité justement, et va devoir lutter toute sa vie professionnelle contre l'urbanisation et arriver à la retraite, eu égard aux faibles revenus de retraite d'un agriculteur, les plus faibles revenus de retraite du système français. Il y a des agriculteurs en France qui gagnent entre 300 et 700 euros de retraite par mois. D'accord. La seule richesse, c'est la possession foncière, la terre. Donc lorsqu'ils partent à la retraite, ils ont plutôt intérêt à lâcher le foncier à l'urbanisation.
Michel Apostolo, de la Confédération Paysanne, PACA. De plus en plus de terres agricoles disparaissent de l'agriculture. PACA, c'est vraiment le problème primordial, c'est-à-dire pour donner accès aux fonciers à des jeunes qui s'installent, il faut d'abord avoir une vraie politique foncière. La vraie question, ça serait de geler les terres agricoles, qu'elles ne puissent plus être urbanisées ou artificialisées. Les études menées par le Conseil régional et la Direction régionale de l'agriculture ont montré qu'il y a aujourd'hui suffisamment de zones à urbaniser pour accueillir 1 million d'habitants dans les 15 ans, comme la prospective le laissait supposer. Donc il n'y a aucune nécessité pour le développement que certains veulent à urbaniser des terres agricoles. Au contraire, ces terres-là doivent rester nourricières et participer au maintien de l'autonomie alimentaire de la région. Geler ces terres-là, faire en sorte qu'il y ait un marché qui soit un marché foncier agricole, qui soit limité à l'agriculture et qui soit fonction de la valeur de production des terres. Alors que là, il est fonction de la valeur urbanisable de ces terres-là. Même si elles ne sont pas urbanisables dans un avenir proche, les propriétaires pensent toujours qu'ils vont pouvoir vendre ça constructible. Il y a une demande de plus en plus forte des consommateurs pour avoir des produits de qualité et on n'arrive pas à installer des jeunes qui cherchent désespérément des terres pour le faire et qui ne peuvent pas le faire parce que c'est hors de portée de leurs finances, quoi. On voit qu'il n'y a pas de vraie politique cohérente au niveau du territoire pour gérer sur ce territoire en fonction des besoins alimentaires de la population. Et en même temps, de la qualité de vie, parce que en même temps qu'on subvient aux besoins alimentaires, eh bien, en même temps, ça donne une qualité de vie, parce que quand il y a des terres agricoles, eh bien, il y a moins de béton, et donc il y a plus d'espace vital.
J'habite dans les Landes et je voulais vous dire que dimanche, on va tuer le cochon.
Depuis le milieu des années 90, et on le date très facilement, c'est-à-dire depuis la crise de la vache folle, l'agriculture est redevenue une véritable question de société, mais de société urbaine. Là où on s'en foutait complètement avant de savoir ce qu'on avait dans l'assiette, depuis la crise de la vache folle et qu'on a vu les vaches trembler, les moutons tomber, etc., nous, consommateurs urbains, on se dit « tiens, qu'est-ce qu'on nous fait bouffer ?» Et depuis le milieu des années 90, en fait, on est passé à une volonté au sein des sociétés locales de consommer mieux. On est à la fois pour cette agriculture dans des besoins quantitatifs, on a toujours besoin de quantité, mais on va de plus en plus vers un besoin de qualitatif aussi. Le consommateur urbain, il a de plus en plus envie de savoir que sont ces produits qui sont dans son assiette. Et c'est pour ça que la question du local revient complètement. Le consommateur que je suis, que tu es, va commencer à regarder ce qu'il a autour de chez lui. Autour de chez lui, il reste de l'agriculture. Et c'est pour ça que cette agriculture urbaine, là, est remobilisée dans sa fonction productive première.
On peut dire que l'agriculture locale est une référence de qualité. C'est aussi une relation de confiance qui s'établit, c'est aussi une convivialité, la relation directe entre le producteur et le consommateur.
Complètement. C'est-à-dire qu'on est exactement dans cette relation que tu décris. Est-ce que c'est un gage de qualité? La qualité, tu sais, c'est quelque chose de très subjectif. Est-ce que c'est une qualité, on va dire, visuelle, hein, la tomate parfaite du supermarché? Est-ce que c'est une qualité en termes de traçabilité? La qualité, c'est quelque chose vraiment de très différent d'un consommateur à un autre. Ce qui est sûr, c'est que si on analyse aujourd'hui les formes de distribution et de consommation pour l'agriculture urbaine et périurbaine, on se rend compte que le consommateur est réellement en attente de consommation de produits locaux. Ce système de rapprochement entre le consommateur et le producteur, c'est le développement des marchés paysans.
Aux hormones, ils ont qu'à aller voir en Espagne.
C'est un producteur dans la Drôme qui fait l'élevage de lapin en cage. Une cage, hein, je ne vous mens pas, hein. Comme ça, vous avez trois lapins dedans.
Plus cher. Les forgers, ils mangent
ça. Si vous oubliez de leur donner à manger le matin bonheur, il y en a un de mort, ils se bouffent entre eux.
Moi, j'ai le grand-père de mon jeune, des lapins, mais c'est individuel.
Voilà.
Mais faut voir ces lapins comme ils sont beaux. Ça me fait même la peine de les manger. Ils sont tellement beaux.
Comme on dit, il en faut pour tout le monde, c'est des lapins d'industrie. C'est nourri au totaliment, au bout de tant de jours, on les balance dedans.
Alors, c'est pas pour rien qu'on a tous ces maladies.
On les balance à Auchan, comme on dit, dans les grandes surfaces, c'est du lapin pas cher.
Ouais, après, on est malade.
Les poulets.
On est malade, monsieur.
Les poulets, pour que les œufs nisselles qu'on appelle. Pour que ce soit rentable, les poules, on leur met la lumière. Vous savez qu'une poule, quand il y a la lumière, elle ne dort pas.
Oui.
Ou très peu.
Plus cher. Et puis elle pose sur les poules mortes.
Elle pose sur les poules et ça fond. Et ces poules, une fois que elles sont vieilles, on les met en rayon et on les vend en poulet. Oui. Alors, vous savez que vous avez des poulets à 3 euros, 2 euros un poulet. Qu'ailleurs, ça vaut 20 euros, 15 euros.
C'est pour ça que...
C'est des poulets.
Ouais, va mieux. L'année, la semaine prochaine, 1,5 kg.
On se rappelle qu'il y a 15 ans, sur les marchés à Marseille, on n'avait que des revendeurs, c'est-à-dire des gens qui allaient au carreau, qui allaient au marché d'intérêt national, acheter de la production, et leur métier, c'était de revendre sur les marchés locaux. Aujourd'hui, en France, se développent de façon très très forte des marchés dits paysans, c'est-à-dire que les paysans, les agriculteurs locaux, réinvestissent la vente. Pourquoi les agriculteurs se retournent vers la ville? Un, parce qu'ils sentent bien qu'il y a un besoin des villes et que qui dit besoin dit peut-être façon de revaloriser leur activité, y compris sur le plan économique, parce que en passant de ce qu'on appelle des circuits longs, c'est-à-dire de circuits où il y a beaucoup d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, à des circuits courts, ben, toutes les marges qu'ils peuvent faire sur leurs produits, c'est eux qui les encaissent. Et les agriculteurs situés à proximité immédiate de la ville ont l'occasion de se retourner vers leurs consommateurs et de venir donc sur des circuits courts qui sont en plein boom, en plein développement. Voilà, la qualité est vraiment un des maîtres mots de ces systèmes de production et de consommation.
Là,
voilà.
Alors bonjour, je suis avec un producteur de la région.
Oui, du Bouches-du-Rhône, hein, de la Farles-Oliviers.
Armand Durigon, maraîcher et cofondateur du marché paysan du Cours Julien.
Alors nous, on est un peu atypique, hein, par rapport à ce que l'on rencontre dans le département. C'est-à-dire qu'on est très diversifié et on est orienté vers la vente donc, au détail, donc sur des marchés de producteurs. C'est de la vente directe et des livraisons en panier. La vente directe, eh bien, c'est le marché du cours Julien donc, à Marseille, hein, qu'on a créé en 2001, qui est un marché qui est une référence pour Marseille, hein, un marché de frais. Ça a été très pénible de rentrer sur Marseille parce qu'en fait on se heurte à une fédération de revendeurs de fruits et légumes qui est très très balèze, hein, qui fait même reculer la mairie, qui veulent absolument la totalité du territoire destiné à la vente de fruits et légumes. Donc quand on s'est pointé, on a plus ou moins eu un petit peu de bol. C'est-à-dire qu'il y avait le marché du cours Julien qui était en sommeil, puisque c'était quand même le lieu historique des marchés avec la plaine. Mais le marché n'a jamais été annulé, donc il y avait une possibilité. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré, dans des conférences d'explication des OGM à l'époque, ce que c'était, un responsable de l'association des commerçants du cours Julien. Il y avait une volonté déjà de l'association, hein, des commerçants, de créer un marché paysan, mais bon, ils n'arrivaient pas trop à articuler, ils avaient du mal à trouver les paysans, etc. Moi, j'ai ramené ça dans mon giron de la Confédération Paysanne, on en a parlé, et on avait déjà au préalable fait des manifestations sur le Vieux-Port, où on trouvait beaucoup de crédits et les gens disaient « mais nous, voilà, c'est ce qu'on attend à Marseille, on veut du frais et ça, on n'a pas droit, etc. » Et c'est comme ça qu'on s'est posé en centre-ville, quoi. Ensuite, on a eu beaucoup de demandes sur Marseille pour créer des marchés paysans. Ça n'aboutit jamais. Donc il y a quand même presque 1 million, disons, d'habitants, si on considère qu'il y a la banlieue et qu'il y a des gens qui viennent d'Aubagne aussi et qui viennent aussi au marché paysan. Les Marseillais, c'est par excellence certainement la population dans le Grand Sud-Est qui est la plus consommatrice de fruits et légumes. C'est quand même, ils baignent dans cette culture avec l'ancienne ceinture verte qu'ils avaient. Nous, depuis des années, on a développé des gammes de produits. Tout est consommable, mais ils veulent de tout. Je veux dire, demain, je peux arriver avec la bread mafane, je peux arriver avec de l'aubergine, du gnam qu'on appelle africaine, etc. Et ils vont tout consommer. C'est affolant, quoi. Je veux dire, tellement que bon, à un moment donné, on arrive à un stade où il faut arrêter de produire diversifié parce que bon, c'est très compliqué aussi. Donc, quelque part, on est un peu à genoux. Ça demande une énergie considérable. Il faut vouloir vraiment le faire. Mais c'est la dernière marche avant l'oubli, quoi. Quand on est en agriculture diversifiée, notamment en fruits et légumes, c'est à peu près 30% de boulot en plus, donc de main-d'œuvre en plus, etc. Mais d'un autre côté, c'est flatteur aussi. Donc ne pas aller dans ce sens-là, c'est vraiment aller à contre-courant de l'histoire, c'est-à-dire vouloir imposer à une population une alimentation standard, frigorifiée, qui vient d'ailleurs. Bon, les hommes politiques, peut-être français, ont fait peut-être des choix et des mauvais choix de dire finalement l'agriculture c'est un merdier, on saura toujours et on a des gens qui vont produire moins cher, et quant à la qualité, on passe dessus, quoi.
Alors, on en a parlé là tout au long de cette discussion, mais quels sont les avantages précis pour les citadins d'avoir à côté de chez eux un commerce de proximité, des marchés paysans, une relation directe avec le producteur ?
Déjà, c'est une possibilité de créer des liens avec le monde rural, ce qui s'était un petit peu défait depuis quand même pas mal de décennies. C'est la possibilité pour eux d'avoir une garantie, parce que bon, en général, au bout d'un certain nombre d'années, bon, vous avez des gens qui viennent chez vous, donc voilà, ils s'installent une espèce de convivialité, un petit peu comme avec les paniers. Hein, toute la matinée, quand on est là, pendant 6 heures durant, hein, on va communiquer avec lui, et voilà, mais ça, et le pâtisson. Alors un pâtisson, c'est la même famille que la courgette, c'est une cucurbitacée avec une chair qui est un peu plus ferme, mais qui est plus douce, donc vous pouvez le travailler soit en faisant un risotto, soit en faisant un émincé, vous le faites poêler et puis vous mélangez ça avec des pâtes et ça n'arrête pas. Et donc on a recréé aussi des lieux de vie depuis toutes ces années où les gens viennent sur le marché pour se retrouver, hein, où ils se rencontrent, où ils échangent aussi des recettes et nous on apprend aussi de l'autre côté aussi des choses. L'avantage, c'est qu'effectivement on supprime les intermédiaires. Parce qu'eux, il ne faut plus les voir. Pendant 30-40 ans, ils se sont immiscés, ils ont gagné des vrais trésors de guerre et ils ont tout démoli. Ils ont tout cassé. Avec l'aide des paysans aussi, parce que les paysans, à un moment donné, ils ont fait le choix en disant « Oh, mais attendez, mais si la grande distribution et si les expéditeurs nous enlèvent la marchandise et puis qu'ils nous payent et puis moi, je reste chez moi, c'est bravo. » Ben, on s'est fait déposséder de notre outil de travail. C'est ça, la réalité.
C'est très facile, tu as le style. Laisse-toi aller et ne reste pas immobile. C'est très facile, tu as le style. Fais comme Luc Botté et Gary sur le rythme. Écarte les gambettes et fais les montéros. Que tu aies des baskets ou des pizza philo. Écarte les gambettes et vois comme c'est chaud. On est à fond de ballon, White Star Sumo.
On danse, on danse, on danse le parpagnard. On danse, on danse, on danse le parpagnard.
regret de pire surprise.
Ceci est une bonne petite claque au cono.
Qui pense que le savoir ne peut venir que d'un haut.
Gagamo fini bousera, gamo fini pecno.
N'oublie jamais que tes ancêtres portaient des sabots.
À qui nourrit l'humanité, les parpaillas.
Qui nous a civilisé, les parpaillas.
Qui décore le pays,
les parpaillas.
Qui fait bosser la sensei,
les parpaillas.
On danse, on danse, on danse le parpaillas. On danse, on danse.
Alors comment expliquer à un ménage où il y a 5 enfants, on a 1200 euros par mois pour nourrir la famille, on se retrouve à la fin du mois avec un découvert, comment leur expliquer? Est-ce que d'ailleurs on peut leur expliquer d'acheter des produits locaux de qualité?
On accuse souvent les AMAP d'être un système pour des catégories sociales à niveau élevé. Se pose alors la question d'un véritable système de valeurs et de système éducatif. Comment expliquer à une famille qui a 5 enfants et qui a un budget limité? Ça pose la question de savoir quelles sont leurs priorités. Si par le système éducatif on arrive à montrer que bien se nourrir avec la saison, se nourrir avec des légumes diversifiés, se nourrir ne serait-ce qu'avec des légumes, tout court. C'est vrai que dans les classes parmi les plus populaires, le discours est de dire, bon, mais c'est, ce qui est une réalité, c'est que les fruits et légumes sont atrocement chers. Il faut pouvoir, par l'éducation, donc la rééducation culinaire, montrer que bien se nourrir, c'est très certainement une priorité. Une priorité, ne serait-ce qu'en termes de santé.
2 euros, qui dit mieux? 4. 4 euros sur ma droite, qui dit mieux? 4 euros. 4 euros sur ma droite, une fois, 4 euros. 7 euros là-bas, sur ma gauche, 7 euros. 8.
Je suis le directeur balayeur du festival, Jean-Louis Favier. C'est à cause de moi qu'il existe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'on mène un travail à longueur d'année sur la vallée de Luvonne depuis 2003, que ce travail a des actions à long terme et que Caresser le potager est la vitrine et le temps fort annuel de toute l'action qu'on fait sur le 10, 11 et 12e arrondissement de Marseille. Il n'est pas question pour nous de dire qu'il faut reconstruire une identité de la vallée. Elle a existé de façon agricole, elle a existé de façon industrielle. Après, maintenant, c'est parti sur autre chose. Le territoire en lui-même, il peut très bien donner naissance à 5 ou 6 entités d'identité différentes. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, ce sont les gens qui sont là-dedans. Et comment ça peut s'organiser? Et comment éventuellement on peut un tout petit peu aider à ce que les choses se clarifient au niveau relationnel, au niveau culturel, etc. Vous savez, vivre dans un quartier excentré d'une grande ville, c'est la même chose que vivre dans un village à 80 km. On n'est pas plus proche de ce qui se passe dans le centre-ville, de ce qui se passe dans les circuits officiels, les circuits où roule la culture et l'art. Il y a plein de choses qui font que c'est aussi difficile d'être à 5 km du centre que d'être à 80 km du centre.
10 euros le basilic pourpre, 10 euros une fois sur ma droite. Le basilic pourpre, 2 fois 10 euros, ça fait 20. Quoi? 10 euros 3 fois, adjugé.
Une fois que la plante, que le légume, hein, c'est toujours des légumes, fait 10 cm de haut, on le met dans un pot individuel et on les distribue aux familles en leur disant, tiens, élève-moi le pot pendant 2 mois, puis tu me le ramènes après. Et on fait une très jolie manifestation qui est 10 jours avant le festival pour qu'ils nous ramènent tout ça, parce que c'est quand même notre décor. Ça s'appelle pot contre pot. Tu me ramènes ton pot, je t'offre un pot à boire. C'est un gros pique-nique qu'on offre aux gens et on voit arriver comme ça des centaines de personnes qui viennent nous rendre le pot et qui disent « Oh, ta tomate, elle est plus belle que la mienne », etc. C'est aussi beaucoup sur justement les variétés, c'est-à-dire avoir des goûts différents, ne pas mettre les gens en face de 2 variétés de tomates qui n'ont pas de goût, mais au lieu de ça, les mettre devant 10 ou 15 variétés différentes, et puis pour les autres légumes également, hein, et les cultiver d'une façon... On dit bio parce que c'est tendance maintenant, mais d'une façon honnête, on va dire. Hein. Il se trouve qu'on travaille avec des gens qui ont de la belle bio, mais moi je dis ils cultivent de façon honnête. Ils ne mettent pas n'importe quoi dedans et ils font attention à ce que ça pousse bien, que ce soit bon.
Et justement, sensibiliser la population locale à l'agriculture locale, est-ce que ce ne serait pas le rôle des associations, des jardins familiaux, des jardins associatifs?
Les réseaux associatifs sont bien conscients et essaient au maximum de réfléchir à comment diffuser le système à des classes sociales très, très diversifiées.
Alors ici, c'est le jardin des Ors, c'est ça?
C'est le jardin des Ors, mais en fait, il fait partie effectivement des jardins solidaires méditerranéens. Oui, il y a un peu de vent. Jardin des Ors, ça veut dire jardin de tout vent. C'est vrai que le Mistral descend allègrement du massif de l'Étoile jusqu'ici, en balayant avec joie nos pieds de tomates. Ça nous plaît bien comme nom, jardin des Ors. Certains, des fois, disent c'est le jardin des autres. Et ils rajoutent un thé, mais il y a toujours des gens qui mettent des thés sur les bars et machin. Pas très grave. Le jardin des Ors, lui, fait partie d'un réseau dont je suis le coordinateur. C'est effectivement un réseau régional qui s'appelle les Jardins Solidaires Méditerranéens, qui rassemble une centaine d'initiatives de jardins dans les villes et villages de PACA. Et on est dans le vallon du Mont d'Or, où il y a quelques pavillons. Et juste à côté du Mont d'Or, il y a la fameuse colline où est plantée la Cité de la Solidarité, en fait, où il y a à peu près 5000 habitants. Juste en dessous, il y a Calisté, donc il y a 5000 autres habitants. Et après, il y a juste la granière, juste à côté du jardin, là, où il y a 5000 autres habitants. Donc, faut compter à peu près 20 000 habitants dans ce quartier, en fait. On fait vraiment tampon, là, en fait, entre un quartier pavillonnaire où, quelque part, il y a une certaine misère sociale, parce que les gens sont un peu isolés les uns à côté des autres. Et une autre misère sociale, on a des gens entassés les uns sur les autres et qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On offre justement un jardin à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin parce qu'ils habitent dans des immeubles. Et on offre l'opportunité à des gens qui ont un jardin de venir ici jardiner ensemble.
Ces jardins de quartier, vraiment, qui sont là pour ménager des relations entre les habitants d'un quartier. Au cœur de quartiers très denses, très urbains, redonner du sens à ces quartiers, avec justement du don construit et de la nature.
Il y a le parc public Pinette qui est géré toujours par la ville, et une partie du parc a été prêtée à l'association qui m'emploie, qui s'appelle Accueil et Rencontre, et qui depuis 20 ans ici, en fait, tente de faire en sorte que le quartier s'anime, créer des moments de rencontre, un peu comme aujourd'hui, pour tous. Parce qu'ici, il y a une misère sociale. Il y a des parents isolés qui sont dans leur pavillon et qui connaissent même pas leurs voisins. Et on a des gens entassés qui se connaissent très bien, mais qui en ont un peu marre d'être entassés et qui préfèrent apprendre à se connaître en venant dans un jardin. Et ces gens-là, finalement, finissent par se rencontrer aussi, puisque les gens des pavillons, on leur offre pas un lopin de terre. Ça, non, ça, c'est pas possible. Ils ont un jardin chez eux. On n'offre pas un lopin de terre à des gens qui ont un jardin. On offre un lopin de terre à des gens qui habitent des immeubles, que ce soit les immeubles tout neufs qui sont là, ou les cités donc environnantes, Calisté, La Granière, Solidarité, donc à peu près 15 000 habitants. Évidemment, on peut pas faire jardiner tout le monde. Bon, tout le monde a des désirs de jardin très variés. Certains jardinent tous les jours, d'autres jardinent une fois par an. Ce qui fait que le lopin de terre, effectivement, bon, ça s'est vite régulé. L'attribution des parcelles, je me passerai des détails. Mais il y a 15 familles à l'heure d'aujourd'hui qui ont une parcelle individuelle. Mais depuis 5 ans, en fait, il y a eu une volonté à la fois des gens du quartier, des jardiniers qui sont là depuis 10 ans, et de nouveaux habitants du quartier, de faire de ce lieu, le Jardin des Ors, un lieu où on jardine autrement, en fait. Mais là, on a 2000 m², on n'a pas 3 hectares, on n'a pas 100 parcelles, on n'a pas... Enfin voilà, c'est plus compliqué. Et de toute façon, ça va être de plus en plus compliqué dans cette ville de Marseille, puisque de toute façon, le foncier se réduit de plus en plus à la faveur des promoteurs. Il suffit de regarder à côté du plan Daou, vous verrez qu'il y a des résidences qui ont pris la place de la vue sur mer qu'avaient les gens du plan Daou. Toujours est-il qu'ici, au Jardin des Ors, effectivement, on s'est dit on va jardiner autrement, c'est-à-dire que... On n'avait pas envie d'être un lieu de convoitise. C'est une magnifique bulle verte dans le béton. Et quelque part, même les gens qui habitaient les pavillons ne connaissaient pas cet endroit-là. Je dis même les gens qui habitent les pavillons parce que même certains qui habitaient la cité ne connaissaient toujours pas cet endroit-là 5 ans après. Parce que les parcelles étaient individuelles et qu'il y avait quelques centres sociaux qui venaient ici apprendre à découvrir la nature en fonction de la motivation des animateurs des centres sociaux. Et c'est vrai qu'ici, depuis 5 ans, on accueille toutes les écoles et les collèges du quartier. Moi, je mets en place des programmes éducatifs et pédagogiques autour de la découverte de la nature et des gestes du jardinage bio. Quand on jardine bio, on fait du compost, donc on pense à trier ses déchets.
Quand on commence à jardiner, on se rend compte que la terre n'est pas forcément assez riche, surtout ici, il y a beaucoup de cailloux. Donc pour faire en sorte que la terre soit cultivable, pour avoir nos beaux potagers, il a bien fallu y faire quelque chose, et notamment amener de l'engrais. Aline, animatrice nature au jardin. Alors ici, voilà, c'est notre aire de compostage avec les différents composteurs en bois ou des silos en plastique.
Donc, si vous mettez dedans des déchets alimentaires?
Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, déchets alimentaires, pas n'importe lesquels. Par exemple, on vient d'avoir un arrivage tout frais, là, de... Vous pouvez voir épluchures de bananes, feuilles de salade, trognons de salade, épluchures de carottes. Tout ça, ça vient de la cuisine. Tout ce qu'on ne mange pas, ou tout ce qui est gâté. Filtre et marc de café. Et on voit aussi tout ce qui vient du jardin, c'est-à-dire les branchages, les herbes. Voilà, donc ça, c'est du compost tout frais. On reconnaît encore bien les déchets qu'on vient d'y mettre, puisque j'ai pu citer leur nom. Et si on regarde à côté, on a un tas de compost qui est presque fini d'être transformé. On va bientôt pouvoir l'utiliser pour le jardin. C'est utile de mettre du compost, parce que non seulement ça va nourrir la plante, mais en plus... ça améliore la qualité de la terre en termes de rétention d'eau. Une terre dans laquelle on met le compost va retenir plus facilement l'eau qu'une terre où il n'y en aura pas.
Mais est-ce que ça se développe beaucoup, ce compostage naturel fait maison ?
Il y a plein de personnes qui viennent nous voir en demandant comment je peux faire du compost chez moi, je suis en ville. Il n'y a pas de filière de compostage individuel ou collectif qui sont organisées. On a du tri sélectif. Avec les containers dans les quartiers, mais rien n'est fait pour les déchets organiques. Or, ça représente quand même un tiers, en volume, un tiers de nos poubelles. Donc c'est un tiers de nos poubelles qu'on pourrait valoriser, non seulement en faire de l'engrais, mais en plus diminuer le volume des déchets à gérer ensuite.
Voilà, il y a une parcelle collective, elle a une petite clôture, elle est faite de narcisses, faites attention, et de tulipes, donc ne les écrasez pas. Puis des fois, il y a des choses qui se mangent, hein. C'est de la fleur de roquette, ça peut se manger. Bon, je la mange pas parce qu'il y a des chiens qui passent parfois. Donc la parcelle collective qui s'étend du Haut-Vent en bois, donc qui a été fait par des jeunes des Chutes La Vie, qui dépend de la prévention judiciaire de la jeunesse, et ils font de l'éco-construction du mobilier urbain charmant comme ça. Et donc la parcelle collective va jusqu'au figuier. Ça me sert de support pédagogique effectivement, donc là vous voyez j'ai commencé ce matin à gratter un peu la terre parce que je prépare les semis de petits pois pour les maternelles qui viennent lundi.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, toute l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Depuis le milieu des années 90 aussi, il y a un véritable retour de ces sociétés urbaines qui regardent en arrière et qui réinventent leur passé agricole ou qui remettent en avant le passé agricole. Donc tout ça, ça fait des enjeux en termes d'urbanisme, d'aménagement, hein, c'est-à-dire qu'on est là toujours à nous dire la nécessité de faire de la ville dense, de faire vraiment de la densité, etc. À un moment donné où les études montrent que les gens ont envie de faible densité, d'avoir du vert naturel, du vert productif à côté de chez eux. Force est de constater que cette agriculture urbaine apporte un certain nombre de réponses, ne serait-ce, et je centrerai que sur ça, ne serait-ce qu'au plan paysager. Les urbains, quels qu'ils soient, riches, pauvres, au nord, au sud, apprécient de plus en plus le non-construit naturel, la forêt, la broussaille, les zones naturelles, ou le non-construit productif, agricole, près de chez eux. Ça a vraiment une valeur paysagère forte. Et tout ça, bien entendu, ces fonctions économiques, productives, sociales, culturelles, environnementales et paysagères, tout ça, on essaie, un certain nombre de chercheurs, d'acteurs, de paysagiste, acteur du territoire, de traduire ça dans des projets d'agri-urbanisme. On n'est plus là dans de l'agriculture urbaine, on est vraiment dans la dimension de projet, l'agri-urbanisme, c'est-à-dire essayer de proposer des modèles de gestion et d'aménagement urbain qui intègrent cette agriculture. Alors une agriculture sous différentes formes, soit cette agriculture très professionnelle dont on a parlé, soit ce qui est plus mon cas dans le projet, de jardin, mais de jardin productif, de jardin potager, réintégrer ou intégrer ces jardins productifs au cœur du tissu urbain. Et ça, ça nous oblige à repenser quelque chose qui était là aussi un peu désuet, un peu vieillot, les jardins ouvriers qui sont en fait les jardins familiaux.
J'expose encore d'ailleurs un ensemble de photos des jardins familiaux du Castellas et de l'Écureuil qui se trouve au nord de Saint-Joseph.
Jérémy, géographe étudiant qui commente une expo photo sur les jardins familiaux.
Ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu, une grande mixité de personnes dans les âges, dans ce qui me semblait être leurs origines sociales, des familles, beaucoup de familles, des personnes âgées aussi. Apparemment, en discutant, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps. C'est des terrains qui appartiennent souvent à des entreprises qui mettaient au service de leurs ouvriers, donc des jardins. J'ai axé l'exposition d'une manière à montrer à la fois un paysage, donc un espace qui caractérise les jardins, qu'est-ce que c'est un jardin, et à la fois j'ai accolé des photos, des macro-photos, pour montrer toute la diversité, la biodiversité qui est présente dans ces jardins et qui est intéressante. Et c'était pour montrer que, au-delà de la valeur sociale, humaine, récréative, et ça aussi des fonctions, on va dire, environnementales importantes. Première photo, par exemple, ce qui est assez frappant, c'est que on voit donc le cabanon, le terrain exploité, les arbres. On a l'impression d'être dans un espace vraiment de campagne. Et derrière, c'est les cités, c'est la ville, c'est les immeubles, quoi. Donc ça, c'est vraiment le contraste, le premier contraste qu'on voit et qui est percutant, quoi, notamment pour un géographe. Ces deux images urbain-rural se voir sur une même photo.
La fonction économique et productive de cette agriculture, elle est là, mais aujourd'hui, elle est indissociable d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder cette question de l'agriculture urbaine qu'au regard de la production. Parce que là aussi, depuis le milieu des années 90, on se rend compte que cette agriculture a des fonctions sociales et culturelles. Des espaces non construits au sein de la ville peuvent avoir des fonctions d'intégration, de réintégration de publics diversifiés. Ce sont les jardins d'insertion qui ont là, comme leur nom l'indique, une vocation sociale forte, donc d'insertion ou de réinsertion, qui ont créé autour d'associations, de la réinsertion par la culture potagère de maraîchage. Il y a un très bel exemple dans le 15e arrondissement à Saint-Antoine, porté par le Cosmos Collège.
Donc la première action qu'on a fait ici, c'était avec le collectif Bruit du Frigo, un collectif d'architectes de Bordeaux et un chantier d'insertion du quartier. Donc on a commencé par un petit peu défricher parce que ce terrain était complètement en friche. Et de faire ces tables.
C'est ouvert à des jeunes, mais aussi à des gens qui sont RMI. C'est le principe des chantiers d'insertion. Pour les jeunes, ça passe par la mission locale. Voilà, c'est des contrats de 6 mois, 1 an, renouvelables. C'est des fois un tremplin pour des jeunes qui étaient un peu loin du monde de l'emploi. Et après, effectivement, pendant qu'ils sont sur le chantier d'insertion, les gens qui les accompagnent, eux, ils travaillent après à une insertion professionnelle et des recherches d'emploi.
Mais voilà, vous êtes le bienvenu, vous pouvez venir jusqu'à là devant en voiture, prendre des fleurs. Ici, c'est les adultes. À côté, il y a la serre des jeunes, mais ils font plus des aromatiques qui sont à la vente aussi. Par exemple, le jeune homme là, il travaille aussi ici. Là, il est en stage, mais sinon, il travaille.
Bonjour, je travaille ici. Ça, c'est du tomate à Mexique. Par contre, celui-là, et vous avez le groupe qui sont en face. Ouais, ben, vous allez voir. Si vous voulez, je vous montre ce que je fais. Moi, ce que je fais, je mélange l'herbe et la terre. Là, et ça fait du compost.
Depuis le milieu des années 90, on a dans les politiques urbaines un véritable retour de cette question des jardins productifs, dans l'aménagement urbain. Alors pour les mêmes raisons, les raisons productives, les raisons économiques, on dit plutôt que d'avoir des pelouses fonctionnalistes, c'est-à-dire des pelouses au pied de grand ensemble, il y a tout un tas d'acteurs, l'acteur bailleur dans certains cas, l'acteur associatif dans la plupart des cas, l'habitant lui-même qui dit bon ben on réinvestit le pied des tours et on fait ce qu'on appelle des jardins en pied d'immeuble, on va transformer cette pelouse fonctionnaliste en jardin productif. C'est pas vraiment des jardins qui ont pour fonction de nourrir, c'est plus nourrir la citoyenneté, nourrir l'envie de faire des choses ensemble que nourrir concrètement les familles, parce que la production reste somme toute dérisoire, mais il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Et en fait, depuis le milieu des années 90, depuis les années 90 en général, on a vraiment un développement tous azimuts de multiples formes de jardins, si bien qu'aujourd'hui, les jardins ouvriers qui étaient nés au cœur du 19e siècle ont fait des petits qui, dans l'esprit, sont parfois et souvent bien différents, à tel point qu'aujourd'hui, il y a une loi qui attend d'être votée à l'Assemblée nationale depuis des années pour essayer un peu de mettre de l'ordre dans tout ça, des appellations sur tout ça, sous le terme « jardin collectif », en fait, ranger des différentes formes de jardins qui sont les jardins familiaux, classiques, mais aussi d'autres formes très innovantes de jardins, les jardins dits partagés, ces formes de jardins sur des plus petites surfaces qui s'insèrent dans les tissus urbains délaissés pour là créer de la citoyenneté, de la convivialité, une véritable vie de quartier. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis où depuis les années 70, au cœur des quartiers populaires, se sont développés les jardins dits communautaires qui ont été importés en France dans les années 90. Ces jardins de quartier vraiment qui sont là pour ménager des relations entre les habitants d'un quartier, au cœur de quartiers très denses, très urbains, redonner du sens à ces quartiers avec justement du non construit et de la nature.
Alors ici, ça a servi de jardin public éphémère en 2006, l'été 2006. C'est, le proprio, c'est le même que chez nous. Et du coup, une vacance entre deux locataires a fait que c'était disponible. Et on s'est dit que vu que ça avait bien marché dans la rue des Pots-Bleus, que ça avait amené de la convivialité, que les gens avaient recommencé à sortir leurs chaises sur le trottoir pour voilà quoi, habiter un peu plus la rue comme ils faisaient il y a ne serait-ce que 10 ans de ça quand on est arrivé.
L'association Les Pots-Bleus, implantée dans le 3e arrondissement de Marseille, qui défend l'idée qu'on peut, en jardinant, habiter ensemble en toute convivialité.
Moi, en tant qu'architecte paysagiste, j'arrive sur du domaine public privatisé et je suis un petit peu comme tous ces colonisateurs de territoire et un peu qu'on est tous, c'est-à-dire que je ne suis pas de Marseille, je fais partie de la classe des nouveaux arrivants qui a besoin de se faire adopter ou qui a besoin d'apprivoiser son environnement. Enfin, moi, j'ai éprouvé ça beaucoup et le jardinage a été une façon super sympa de rentrer en relation avec les habitants et puis de faire en sorte qu'on vive là ensemble. C'est des choses qui se passent vraiment petit à petit. Le premier Pots-Bleus, je vous disais, c'était 2005. Au début, c'était deux, trois petites choses. C'est-à-dire que les Pots-Bleus, ils n'ont pas débarqué dans le paysage comme hop, un geste artistique avec 40 trucs à prétention monumentale et l'idée d'envahir tout le quartier. Non, c'est pas du tout ça. C'est d'abord un pot avec juste des gravats, de la terre par-dessus et puis rien dedans ou apparemment rien dedans. Mais en fait, ils avaient été ensemencés et du coup les plantes ont trouvé leur place petit à petit en fait dans la rue. C'est vraiment en tâtonnant et par petites touches que notre premier Pots-Bleus, ben voilà, il s'est mis à exister. Alors les éducs spécialisés de rue là, du quartier qui connaissent le quartier depuis très longtemps et qui étaient jusqu'à récemment dans l'idée que bon, il n'y avait pas grand chose à faire pour améliorer ce cadre de vie, tout ça, nous disaient mais des plantes, c'est ce qu'il y a de plus fragile et tout, ça tiendra jamais les gens quand ils s'entendent pas. Et donc nous en fait on s'est exposé en mettant ce qu'il y avait de plus fragile et de plus vulnérable et puis finalement ça prend, donc ça veut dire que quelque part ça touche. Et effectivement quand on jardine dans la rue, et on va recommencer parce que c'est vraiment une activité saisonnière et donc les beaux jours c'est important, on a un genre de prétexte à être dans la rue puisqu'on fait des choses et que pour faire ces choses il faut un certain temps et que du coup ben voilà, c'est un temps aussi qui est un temps de dialogue, de discussion et de rencontre avec autrui. Et du coup ces plantes nous servent aussi à parler des jardins des uns et des autres qu'ils ont ou qu'ils ont eu autrefois et de leur façon de jardiner, de leur culture et tout et donc de leurs racines en fait. Mathieu, le premier habitant voisin qui a sa parcelle sur le jardin participatif qu'on est en train de créer là-bas.
Tout, du A à Z. Celui qui l'a
moi
tout
ici,
fait du A à Z.
Mon lire les pieds à la terre, rebourrer, mettre de la terre, faire propre, beau.
et mais les plantes et en fait il y a plein de petits qui ont les parcelles
ici,
les jeunes et plus petits, il y a même des plus petits que lui, mais ils sont pas là aujourd'hui.
Mais c'est des jeunes qui habitent dans le quartier là.
C'est les jeunes qui habitent dans le quartier, ouais.
Et dans leur cabane, leur cabane, ils ont voulu avoir leur jardin, donc Germinator leur a fourni leurs premières plantes, etc. Donc de la cabane au jardinage, ce pas qui est franchi assez facilement, et puis l'idée c'est d'habiter les lieux.
Ça va rentrer dans notre compost. En fait, le compost, il est là-bas, derrière dans les petits emplacements là où il y a des feuilles de platane qui se décomposent très lentement, mais qu'on a mélangé avec de la sciure, des débris végétaux, etc. On va mettre ça par-dessus, on bâche l'été après avoir arrosé pour qu'il y ait la fermentation, etc. Et tout ça, ça va nous permettre aussi de mettre sur les parcelles pour pas avoir la terre nue et du coup avoir une meilleure rétention de l'humidité pour mieux gérer l'eau. Quand on ouvre l'eau, elle circule de façon gravitaire entre les parcelles qui sont toutes reliées les unes aux autres, et donc c'est un jardinage qui se fait toujours la porte ouverte en relation avec les voisins, l'environnement, les façons d'être, de faire et toutes ces problématiques qui sont liées au fait de mettre un espace qualifié de fragile et délicat dans un environnement comme celui-ci. Et en fait on voit que ça marche bien à condition que du lien soit établi et de la relation nouée pour que ce soit le bien commun.
Fondamental de faire des projets qui réintègrent ces formes de nature productive au sein de la ville.
Une petite chanson de campagne pour oublier un peu Paname, un petit morceau de la terre bien loin du RER.
Ma ville en prend de la graine, prise de son, montage, réalisation, à cause par là sur le web, ACOSPARLA, à cause par là, toile-libre.org. Avec la participation de Jean-Noël Gonzalez, agri-urbaniste à Marseille, Michel Apostola de la Confédération Paysanne, Armand Durigon, maraîcher et co-fondateur du marché paysan du Cours Julien, Jean-Louis Favier, directeur balayeur du festival Caresser le potager, Jérémy, géographe étudiant, Julien et Aline, animateurs au Jardin des Aurores, le Cosmos Collège, jardin d'insertion, les pots bleus implantés au cœur du 3e arrondissement. Des extraits musicaux, la chanson de campagne du groupe National 7, extrait de leur album Passage, les Massila Son System avec On danse le Parpagnas, tiré de leur album Commando Fada, Ridan avec la chanson L'agriculteur que vous pouvez retrouver sur l'album Le rêve ou la vie.